Vous écoutez
RMC. RMC, le bras de fer GG.
Tu bluffes, Martini. Il bluffe.
Pas sûr.
Dans la côte de Witikon, eh bien, Tadej Pogacar a décidé de secouer le cocotier et de faire peur à 100 km déjà, à peine, je veux dire, de l'arrivée à toute la concurrence.
Il bluffe, là, ça se voit tout de suite.
On est à 86 km de l'arrivée et Pogacar est en tête de la course, tout simplement.
T'as pas l'air de bluffer, là, quand même. Si, il bluffe, là.
Nous avons désormais 17 hommes qui sont en tête, avec Pogacar légèrement détaché, mais qui est en train de se faire reprendre.
Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
Tadej Pogacar qui effectivement a fait exploser le reste de l'échappée.
Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
Il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar. Il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré.
Il n'y a pas beaucoup de courses qui résistent à Tadej Pogacar.
C'est 25 victoires en 54 jours de course.
Eh non, il démarre, mais il démarre. Tadej Pogacar, c'est un killer, c'est un tueur. Tadej Pogacar, le maillot jaune, il va aller s'imposer sans problème pour Tadej Pogacar.
Je vais voter, il bluffe pas.
Ben oui, il a dit 5, 4, 3, 2, 1 et paf, pastèque. La foudre a frappé deux fois sur le critérium du Dauphiné, une première fois vendredi, une deuxième fois hier, pour à chaque fois le même résultat. Tadej Pogacar a attaqué à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Jonas Vingegaard a craqué. Ce matin, le Slovène compte une minute d'avance sur son rival avant la dernière étape. Pogacar a-t-il déjà tué le suspense du Tour de France 2025? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux et, à ma grande surprise, Marc Madio. Dans le coin droit, vous l'aurez compris, il est seul, mais ça ne l'a jamais embêté. La team non, représentée par Pascal Duprat. Sachez qu'il y a une large majorité. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour vous, est-ce qu'il a tué le suspense? C'est oui à 75%. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial sur les routes du Dauphiné, Maria Azé. Bonjour Maria.
Salut JC, salut tout le monde.
C'est vrai que Poggi a encore écœuré tout le monde.
Ouais, parce que pourtant en début de semaine, on n'avait pas du tout le même discours, notamment après le contre-la-montre où il se retrouve 8e au classement général. Alors évidemment, ça ne lui a pas plu, on commence à le connaître, notre Slovène. Et il a remis les pendules à l'heure dès la première étape de montagne, vendredi, où il met 43 secondes au général à Jonas Vingegaard et plus d'une minute 20 à Evenepoel. Hier, c'était l'étape reine de ce critérium du Dauphiné avec l'enchaînement des cols de la Madeleine, col de la Croix de Fer et la montée à Valmeigné. Pogacar repart à l'attaque et Vingegaard a du mal à suivre, ce qui forcément a plu au champion du monde qui était venu un peu pour se tester.
Je ne sais pas si ça le touche mentalement, mais bien sûr que c'est un bonus pour moi de gagner ce genre d'étape très dure avec de grosses ascensions. C'est une grande motivation pour le Tour.
Vingegaard, lui, est loin d'être ridicule. Hier, il est toujours resté à plus ou moins 20 secondes de son rival. Ce qui est marquant, c'est qu'à l'arrivée, le Danois, lui, est vraiment au bout de ses forces, tandis que le Slovène raconte qu'il a terminé plutôt tranquille. Mais quand les journalistes évoquent un tour déjà acté, Vingegaard veut continuer à y croire.
J'espère que cette course va m'aider à être meilleur, pour que je sois encore plus fort sur le tour que maintenant. Poggi était très fort sur les deux dernières étapes, il méritait de gagner ces deux jours, donc félicitations à lui.
Ce qui pose question, c'est que la Visma, équipe de Vingegaard, est bien plus fournie pour la montagne que la team UAE de Pogacar sur ce Dauphiné, preuve que le Slovène est tout simplement au-dessus, mais il s'agace déjà quand on lui demande si le tour est déjà joué.
Je ne pense pas que le tour soit joué. Je signerai tout de suite pour que ça soit facile, mais rien n'est simple dans le cyclisme. Le Dauphiné ne révèle pas tout. Le tour, c'est différent, c'est trois semaines. Là, c'était une préparation, donc attendons de voir ce qu'il se passe sur le tour.
Dernière étape aujourd'hui, avec une difficulté et la montée jusqu'au Mont-Cenis. On voit mal ce qui pourrait empêcher Pogacar d'aller chercher son premier Dauphiné et en prime sa 100e victoire en carrière s'il venait à remporter l'étape.
Merci Maria Azé pour ces précisions. Pogacar a-t-il déjà tué le suspense du Tour de France 2025? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On va commencer par le camp du non, parce que Pascal, t'es tout seul, mais surtout t'es derrière, oui. 25%. Pourquoi non?
Ben parce que j'ai envie de ménager le suspense, surtout, et j'ai envie de trouver des raisons de regarder le Tour de France. Voilà, à partir de juillet, j'ai envie que comme d'habitude, eh bien, ça soit pas couru d'avance. C'est ce c'est pour ça que j'ai répondu non. Parce que ça me gonfle tout simplement qu'il soit au-dessus du lot à ce point-là. Même si c'est un grand champion, je le concède, bah, j'espère que le Tour de France va ménager le suspense. J'espère que Vingegaard va être un peu meilleur qu'il ne l'est sur le Dauphiné. J'espère qu'il y va y avoir de quoi s'enthousiasmer. Parce que si, Pascal, si alors que le Tour n'a pas commencé, j'y crois, mais la meilleure.
Mais donne-moi des raisons d'y croire.
Non, mais la méthode Coué, c'est important.
J'aimerais bien te suivre, moi, sur un truc.
Ben alors pourquoi? Ben commence par voter comme moi, alors.
Mais je vote pour
parce
toi.
Parce que, voilà, moi, je me mets à la place de.
Voter tu vois, pour c'est. Du vent, Pascal.
C'est, je
c'est
crois
c'est
que j'ai.
Mais à un moment,
non, mais je me mets à la place.
Pour voter.
Je me mets à la place de Godu, par exemple, quand j'ai mon manager qui dit que c'est couru d'avance. Ben moi, si je suis à la place de Godu, je ne fais pas le Tour de France. Je reste à la maison, alors.
C'est ça, mais.
Vous voyez, c'est ça qui me. C'est ça qui me. Ça me fait dresser le poil. Comme si.
Il y a d'autres enjeux dans le Tour de France que le Tour.
Écoutez-moi, laissez-moi terminer mon argumentation. 2023.
Il n'y a pas grand-chose dans l'argumentation, hein, je te signale.
2023, mais parce que tu me coupes la parole, tout simplement. 2023, parce que tu as peur. 2023, Pogacar, c'est lui qui est blessé. Okay. 2024, c'est Vingegaard. Bah, cette fois-ci, ils sont tous les deux, peut-être à des états de forme différents, mais ils sont en pleine santé. Donc ça devrait être un duel. Et arbitré par Evenepoel, qui n'est pas un tocard, quand même. Donc je me dis, Pogacar, ce qui lui est arrivé sur le contre-la-montre pendant le Dauphiné, ça peut peut-être lui arriver aussi pendant le Tour de France. Ça va être Visma contre UAE. Peut-être que Visma est meilleur sur les étapes longues, même si hier, ils ont prouvé le contraire. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que le Tour va être passionnant, tout simplement. Okay. Et je peux pas entendre qu'avant même qu'il ait commencé, ça soit déjà joué. Non, je peux pas l'entendre. Mais je me rappelle de toi, Christophe, quand on parlait. Pardon, je termine là-dessus. Quand on parlait, comment dire, des classiques. Tu nous disais, il va tout gagner. Je suis désolé, il a pas tout gagné. Il en a gagné beaucoup, mais il a pas tout gagné. J'ai donc tu t'es trompé. Tu vas peut-être te tromper pour le Tour de France.
Si. Pas, non.
Sur la Paris première Roubaix, fois sur le Paris Roubaix, il va gagner.
Réécoute les bandes.
Il y a eu un virage. Il y a eu un talus. Heureusement, c'est la glorieuse incertitude du sport. Il s'est pris le talus et il a perdu.
Bah oui,
Marc.
Ben, moi, je suis réaliste. Je regarde la situation, je regarde le niveau de compétitivité, je regarde les écarts. Dans le Tour, il y a plusieurs courses. Alors, quand tu dis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes coureurs si, avant de commencer, tu penses que... Mais tu sais, dans le peloton, tous les coureurs sont réalistes. Parce que on est dans du 1 contre 1 et on sait, on perçoit, on capte le niveau de compétitivité de la concurrence et après on essaie de situer et d'élaborer sa propre stratégie et ses propres objectifs par rapport à nos propres moyens. Et il est clair que si on regarde objectivement la situation du prochain Tour de France qui s'annonce, il y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais après, la course reste la course, c'est 3 semaines de compétition, les aléas de la course peuvent provoquer des situations qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais si on est réaliste et objectif par rapport aux données qui nous sont proposées de part et d'autre, il n'y a pas match. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a pas match. Maintenant,
mais il est à ce point au-dessus du lot,
ben
sa
oui.
préparation est à ce point exceptionnelle que c'est un extraterrestre, donc. Nous avons affaire à un extraterrestre.
Il y a lui et les autres. Pour moi, aujourd'hui, il y a lui et les autres. Maintenant, la course n'étant pas encore disputée, il va forcément se passer beaucoup de choses. Et encore une fois, on n'est pas dans un affrontement chronométrique où chacun développe sa propre course sans avoir les interférences de la concurrence. Là, on est dans un peloton de 170 coureurs où il y a forcément des interférences qui vont intervenir. Le climat, les conditions de course, le parcours.
Donc, c'est pas joué d'avance.
C'est pas joué d'avance, mais si on
tu m'as rejoint, merci Marc.
Attends, non, je te rejoins sans te comment dire,
sans m'approuver,
être totalement dans ta logique.
Mais aussi,
si, t'as la froideur de l'expert en fait.
Parce que
le réalisme.
J'ai aussi la sensation, Christophe, que on le sait, Vingegaard, il ne court que ça. C'est-à-dire qu'il s'est préparé en attitude pour ne courir que ça. Lui, il doit arriver au top de sa forme dans 3 semaines, pas avant. C'est-à-dire que Pogacar,
ouais, mais c'est vrai qu'il court. Il y a un petit souci là, c'est que je pense quand même qu'au départ de ce Dauphiné, il pensait être beaucoup plus près.
Il avait fait des annonces à du silence.
Hollande. C'est pour ça qu'on rêvait tous, avant le départ de ce Dauphiné, d'une bagarre de tous les instants. Moi, je suis hyper déçu par ce Dauphiné, en fait. Je m'en faisais une joie. Je me disais que les trois fantastiques étaient à un niveau. Et mercredi dernier, après le contre-la-montre, je me disais, mais ça va être génial, ça va être un feu d'artifice tout l'été. Et la première étape de montagne, on est revenu dans le schéma traditionnel.
Mais
c'est-à-dire Pogacar, mais une attaque, il lâche tout le monde.
Non, mais il le lâche sur une attaque, sur 300 mètres, au fond de la classe.
Et Vingegaard n'arrive même pas à s'accrocher à la roue de Pogacar sur 50 mètres ou 100 mètres.
Même on ne peut pas imaginer que Vingegaard se prépare.
Même les années précédentes,
je pense qu'il s'est préparé, mais il pensait être plus près que ça. Qu'à la limite, Pogacar batte Vingegaard et le dépose dans les deux derniers kilomètres des ascensions. J'ai envie de te dire, on est proche l'un de l'autre, ça se joue sur pas grand-chose. Mais là, c'est sur une attaque, sur quelques centaines de mètres, qu'on sait que le match est plié.
Alors, je reformule ma question, Marc.
C'est ça qui est compliqué aujourd'hui à vivre.
Moi, je m'adresse à l'expert, ça m'importe. Attention, Christophe est un expert aussi de vélo. Hein. Mais Marc... est-ce que je veux simplement savoir pour ma connaissance personnelle, est-ce que le Dauphiné libéré ne peut pas peaufiner une préparation?
Mais il peaufine la préparation de tout le monde. Vingegaard et Pogacar sont ici sur ce Dauphiné pour peaufiner leurs conditions et leur approche du Tour, le fonctionnement de leur équipe, leur propre évolution. Et on a vu d'ailleurs, il y a eu un mini raté de Pogacar sur le chrono. On a tout de suite pensé que on a mal pensé. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il a une telle emprise. Là, franchement, je pense que les étapes de montagne du Dauphiné vont laisser des traces mentales chez Vingegaard. Et encore plus, chez Evenepoel. Mais pour moi, Evenepoel, c'est déjà, depuis l'année dernière, au Tour de Lombardie, moi, j'avais observé l'arrivée. Evenepoel termine deuxième du Lombardie. Il s'était pris une minute dans les dents en 10 kilomètres sur le plat dans le final du Tour de Lombardie. Alors qu'il était dans sa spécialité, il était en position aéro, il a passé la ligne d'arrivée. Et moi, j'ai encore en moi l'image d'Evenepoel. Et je me dis, mais là, à l'instant T, il est en train de comprendre que tant que Pogacar sera là, il ne gagnera pas le Tour. Et je pense qu'on est ce qui se passe, les attitudes d'Evenepoel qu'on a aujourd'hui sur le Dauphiné, me conforte malheureusement dans cet avis.
Et moi, dernière chose à ajouter, je pense que en fait, je m'en faisais une joie, mais c'est une connerie de mettre les trois principaux favoris du Tour de France dans le Dauphiné tous ensemble. Parce qu'au mois avant, on avait les suspens jusqu'au début du Tour de France, jusqu'à la première étape de montagne. Là, on est un mois avant le départ et on a déjà plus de suspens.
Alors c'est fou.
Donc,
parce que
non, il faut pas tous les engager au Dauphiné. Il faut en prendre qu'un autre sur le Tour de Suisse.
Alors
un autre,
la course reste la course. Hein. Mais si je me trompe. La semaine dernière, je vous ai posé cette question, Marc, t'étais avec nous.
J'ai demandé si
le Dauphiné allait changer beaucoup de choses dans l'optique du Tour de France. Tout le monde me dit
mais franchement, moi, honnêtement, je pensais que Vingegaard serait plus près.
Bah, moi aussi. En fait, la grosse déception, c'est Vingegaard.
Oui. Il n'est pas décevant.
Non.
Lui, il n'est pas décevant. Le problème, c'est que décevant parce que son niveau est déjà très bon. Le problème, il est là.
C'est que Pogacar, il est toujours en forme.
Il est au-dessus.
Bah oui, mais
il est au-dessus.
C'est un peu énervant quand t'aimes le
tour. Énervant.
Je voudrais vous amener sur un terrain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de spécialistes, mais je voudrais juste reprendre une petite phrase de Pogacar qui dit au début du tour, au début du Dauphiné. Et donc, quand on voit les résultats du Dauphiné, ça me porte à une grande inquiétude pour le Tour de France. Il dit, qu'il est coincé dans la grande boucle. C'est trop étroit. Et ça explique son calendrier de cette année. Il dit, je veux juste vivre de nouvelles expériences, ne pas m'ennuyer en faisant toujours la même chose. Et donc, ça résume quand même sa forme, lui, sa lassitude sur le Tour de France. Alors, la question est de se dire que quand on voit Pogacar qui, finalement, s'ennuie sur le Tour de France, donc pour éviter son ennui sur le Tour de France, s'est fait un calendrier de course pour essayer de trouver un peu d'enthousiasme à tout ça, je me dis, mais en fait, lui est en train de tuer le Tour de France, pas parce qu'il a sa performance, mais il est en train de rendre le Tour trop ennuyeux. Et je me dis, mais donc en fait, les coureurs aujourd'hui,
est-ce qu'ils vont, ça va pas changer une vision et une préparation et de se dire que il vaut mieux être multicarte que juste d'être sur un grand tour.
Mais ça, tu choisis pas.
Et d'avoir cette lassitude. Et ma question, elle est là, elle s'est dire, mais, en fait, lui tout seul, il est en train de remettre en question l'étroitesse des grands tours.
Non, non, voilà. Mais tu choisis pas parce que
chacun. Parce qu'il est capable d'être bon partout.
Mais lui, il est exceptionnel, il est bon sur tous les terrains. Un gros comme Vingegaard ne peut pas jouer sur le même registre. Moi, il y a quand même deux trois petites choses que j'ai notées. Avant le départ de Zoffiné, en suivant l'actualité du sport en général, j'ai aperçu Pogacar au Grand Prix de Monaco de Formule 1. Je l'ai aperçu dans les espaces vifs à Monte-Carlo. Là, hier, par exemple, je l'ai vu dans l'étape, avec son maillot de leader sur le dos, il avait son coéquipier qui roulait, il est descendu à la voiture chercher des bidons pour les apporter à son coéquipier. Les autres étaient roues dans roue. Lui, il est descendu chercher des bidons pour son copain. Il lui a même pas demandé de ralentir, parce qu'il aurait pu à la limite dire à son coéquipier.
Ralenti, j'arrive.
Je pense que Sivakov met un ton en dessous, je vais te chercher des bidons, je reviens. Non, il a rien demandé. Il est descendu et il est passé à côté des autres et TGV pour revenir devant. Charlie.
En fait, il ridiculise tout le monde.
Là, il est en train d'enfoncer le clou dans la tête de Vingegaard. Regardez Vingegaard, lui, depuis Paris-Nice, il était tombé, le pauvre. Il est parti en stage. Il a été avec les ours pendant 3 mois, en altitude. Il ressort de l'altitude avec des convictions et avec la sensation du travail bien fait.
Il a trouvé Dauphiné. Parmi les ours.
Il l'a croisé, il était là-bas aussi en pèlerinage. Et là, l'autre, il arrive sur le Dauphiné, il se dit, là, je vais être au match. Mais il l'a tué. Il l'a tué. Enfin, pour moi, mentalement, sorti de ce dos. Mais regardez la tête de ce pauvre Vingegaard hier à l'arrivée. Il l'a laminé. Alors, donc, ça peut bouger.
Donc, ma
ça
question,
peut changer.
Est-ce que Vingegaard a vraiment raison aujourd'hui de ne se concentrer
mais
que
sur. Mais il ne sait pas faire autre chose.
Tu le vois gagner par Roubaix.
Il est dans son élément.
On poursuit la discussion sur le vélo. On parlera aussi de Romain Bardet. C'est quand même sa dernière. Aujourd'hui, la dernière course de sa carrière. C'était passionnant de vous écouter sur Pogacar Vingegaard. On va vibrer tout de même pour le Tour de France. On espère vibrer le plus longtemps possible, forcément. Allez, à tout de suite sur RMC.
10-5, 4-3-0 et après, paf, pastèque.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.